grand témoin. Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Pélagie Makédika, présidente de Cause Rurale. Cause Rurale est une association sans but lucratif très active dans le territoire de Kasongo-Lunda et ses environs. Nous sommes là dans la province de Bandundu. Elle est également militante des droits des femmes. Madame Pélagie Makédika, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oui, merci Maman Kanye, bonjour.
Bonjour, alors avec vous dans notre entretien, nous parlerons de votre association, de cette association que vous dirigez depuis 1999. Oui, on va en parler dans cette émission, mais vous allez nous parler aussi de votre parcours en tant qu'activiste, militante des droits des femmes. C'est le mois de mars, bonne fête d'abord.
Oui, bonne fête à vous aussi, c'était une fête.
Vous pensez donc que cette journée ne devrait pas être fêtée?
Je ne partage pas totalement cet avis.
Alors, je vous souhaite quoi? Rien du tout?
On va en parler.
D'accord. Alors, on parlera de votre parcours en tant qu'activiste. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler un peu de votre enfance. Vous êtes née où et quand?
Je suis née à Kasongo-Lunda le 9 septembre. Vous voulez que je donne l'année aussi?
Et si ça ne vous dérange pas?
68.
Et c'est là où vous avez grandi?
Oui, l'école primaire, l'enfance, l'école primaire, l'école secondaire à Popokabaka, dans le diocèse, donc à Tuvukamundu.
Primaire, secondaire?
Primaire, seconde, primaire à Kasongo-Lunda, secondaire à Tuvukamundu et l'université ici à Kinshasa.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude à l'université?
J'ai fait les sciences et techniques de développement à l'université catholique du Congo, avec sa faculté catholique à l'époque.
C'est quoi qui vous a attiré dans les sciences de développement?
Oui, d'abord, j'avais commencé à l'université de Kinshasa en économie avec la fermeture en 1991. C'est comme ça que je me suis retrouvée aux facultés catholiques. En fait, ce n'était pas ma vocation. Ça, c'est la destinée. C'est Dieu qui a voulu que je me retrouve à l'université catholique du Congo.
Et donc, vous avez commencé les cours en sciences de développement. Vous avez pris goût.
Oui,
vous
j'ai
ne regrettez
goût.
Pas aujourd'hui
je
d'avoir
ne regrette
fait ces
pas.
Études.
Non, je ne regrette rien. Je pense que c'est là que Dieu m'a destinée. Parce que je suis fière et contente de ce que je fais comme travail sur terre.
Est-ce que c'est facile après les études de trouver un boulot lorsqu'on a fait ses études ici en RDC?
Bon, déjà, quand nous nous formait en développement, je me rappelle d'une phrase de l'abbé Niemé, qui était notre vice-recteur à l'époque. Je cite sa phrase, hein. Il disait, on ne vous forme pas comme demandeur d'emploi, mais on vous forme comme créateur d'emploi. Ça, c'est une phrase qui m'avait marqué et moi, je l'ai matérialisée déjà. C'est même ça l'historique des causes rurales.
Vous avez créé de l'emploi.
Et voilà. Et même si je me suis retrouvée immédiatement, j'ai eu un emploi, c'est vrai, dans une église protestante. Mais je me disais que ce n'était pas suffisant pour moi. Dans un projet, c'était trop limité. Il fallait que je matérialise la vision de développement au travers d'une structure. Donc, c'est la naissance des causes rurales.
Est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui vous a marqué pendant votre enfance?
Pendant l'enfance.
Ou pendant que vous grandissiez, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué?
Beaucoup de choses, je ne sais pas trop dire, mais des positifs ou des négatifs, je ne sais pas.
Parlons du positif.
Positif, ma conversion au christianisme, ça c'est le grand événement que je puisse garder dans ma vie.
Mariée?
Non.
Pas d'enfant non plus?
Non, non, je suis sûre.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Pélagie Makéna? Makédika.
Bon, déjà de par mon nom Makédika, ça veut dire en français la vérité, ou bien
ah bon?
Dire ce qui est vrai.
C'est en quel nom Makédika?
C'est en Kiyaka, en Kikongo aussi c'est la même chose. Il y en a qui parlent de Makéleka, mais dans ma langue maternelle c'est Makédika. Donc Makédika, donc c'est vrai ou c'est la vérité. De par mon nom, je n'aime pas le mensonge, et je n'aime pas la duplicité. Et je peux encore ajouter que je n'aime pas la paresse.
Vous êtes une femme active.
Oui.
C'est quoi votre plat préféré?
Le plat préféré, comme toute Mouyaka, j'aime les fumwa, les moussengoula. C'est un fumwa où on ne met pas la pâte d'arachide. Ça se prépare comme ça avec un peu d'huile. C'est simple, une sorte de bouillon de fumwa. Ça, j'aime beaucoup.
Et juste de l'huile sans
oui,
arachide?
Oui, un peu d'huile sans arachide. Et accompagné de quelque chose. En Kiyaka, ça s'appelle Moussengula. Il y en a qui parlent de Kisengula, mais c'est le même plat.
Ah, d'accord. Oui. Alors, Pélagie Makédika, directement après vos études, vous avez trouvé un emploi, vous nous avez dit. Vous avez travaillé dans une église protestante.
Oui, la CEK, la 25e communauté évangélique du Congo. C'est eux qui m'ont engagé comme directrice adjointe du programme agricole, déjà après mes études.
Qui consistait à faire quoi exactement?
C'est d'ailleurs un programme agricole donc, qui consistait à... C'est un programme de vulgarisation agricole On avait 5 poules et moi comme responsable, donc adjointe, j'étais occupée à accompagner donc les poules dans la mise en œuvre du projet et à faire le renforcement des capacités des animateurs du projet.
Alors vous êtes activiste et militante des droits des femmes.
Oui.
Depuis quand?
Ça, je peux dire que c'est depuis mon enfance. Je me suis rendu compte, en fait, que ce travail d'activisme, je l'ai fait même à l'intérieur de notre foyer. Surtout la question des violences basées sur le genre. C'est après que je me suis rendu compte que j'ai milité sur les violences ou contre les violences
sans le savoir. Comme,
sans le savoir, en fait. Et je suis née dans une famille de 8 enfants, dont 3 garçons. Et ma mère était, je peux dire, déjà une victime de violences basées sur le genre, parce que mon père ne souhaitait pas avoir de filles tout au début. Mais Dieu, bon, je ne dirais pas qu'il l'a confondu, il lui a donné d'abord des filles. Et ma mère a vécu quelque chose qui n'était pas très positif, et papa voulait peut-être épouser une deuxième femme, parce que maman était tout le temps malade. Et moi, j'étais contre tout ça.
Beaucoup de femmes connaissent ce genre de problème. Hein?
Oui, beaucoup de femmes connaissent ce genre de problème, surtout si elles commencent à donner des filles tout au début, pendant que l'homme attend un garçon. C'est parfois même à la base des cas de polygamie, à la base même des divorces dans certains couples.
Et donc vous avez commencé à militer sans savoir. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Comme militante des droits des femmes, je sensibilise.
Puisque vous dites que vous avez commencé à militer sans le savoir depuis l'enfance, depuis votre foyer. Est-ce que vous avez essayé de raisonner votre père? Vous avez donné du courage à votre mère?
Oui, avec mon père, moi j'étais comme ce qu'on appelle des filles à papa. J'étais trop proche de papa, je parlais, j'échangeais beaucoup avec lui. Mais la manière la plus concrète dont j'ai aidé ma mère, c'est en allant à l'internat. Je me suis dit que si je reste étudiée à Kasongolunda, papa aurait encore de moyens, il peut se taper une deuxième femme et tout ça. Et moi, je me suis dit que je dois aller étudier très loin, comme ça l'argent qu'il pourrait économiser pour épouser une deuxième femme, il peut me payer les frais scolaires. Mm-hmm. Et là, je me suis donnée pour que je donne le meilleur de moi-même, des bons résultats à papa pour l'encourager à continuer à me payer des frais. Aujourd'hui, il est très content. Je crois que ma mère est décédée l'année passée, mais papa n'a pas eu une deuxième femme de vivre de ma mère.
À part le temple que vous nous donnez de votre famille, vous avez sensibilisé au sein de votre groupement, à l'internat ou dans des associations?
À l'internat, c'était une école de filles. On n'avait pas de garçons, mais on travaillait comme femmes. Mais quand je suis rentrée en 2000 pour aller travailler au programme agricole, c'est là que j'ai commencé déjà en 2001 donc à initier même la journée du 8 mars parce que les femmes n'en savaient rien. J'ai sensibilisé, mobilisé les femmes et nous avons célébré pour la première fois à Kasongolunda la journée du 8 mars en 2001.
Donc là, parce qu'avant 2001, on ne célébrait pas cette journée à Kasongolunda.
Non, les femmes n'étaient pas informées de ça. Elles n'étaient pas informées. Donc c'est moi qui ai initié aujourd'hui. Donc c'est devenu
donc
comme
les
si
femmes
c'était
de Kasongolunda ne savaient pas qu'il y avait une journée destinée aux femmes à certains
rien
moments.
Rien du tout. Sauf les femmes de l'église qui connaissaient la journée de la fédération, la journée de la prière le 5 mars. Mais c'est différent. La prière et le 8 mars, c'est différent. Donc là, c'était au niveau de l'église protestante seulement.
Comment on peut expliquer ça? C'est le fait que la plupart des femmes ne sont pas instruites là-bas ou il y a une autre raison?
C'est pas une question d'instruction parce que moi-même, j'ai été enseignée par des femmes. Il y a des femmes directrices, des femmes, il y a des religieuses qui sont là, qui ont moins le minimum. Quand j'arrivais, le minimum de D6, c'est un problème d'information seulement. Donc c'est une journée connue en ville, mais en milieu rural, l'information, là, je n'en avais pas.
Jusqu'en 2001, quand même, c'est bizarre.
C'est ça, maintenant, le fossé qui existe entre les milieux urbains et les milieux ruraux.
Et en 2001, vous avez sensibilisé les femmes, vous avez fêté avec les femmes pour la première fois.
Avec les femmes et les hommes. Avec les femmes et les hommes. Et je me rappelle même que le curé de la paroisse m'a fait une carte à la fin pour me féliciter. Et à l'évaluation, il y a même une phrase qui m'a un peu à faire réfléchir quand on a évalué avec les femmes pour en demandant qu'est-ce qui les avait touchées à l'occasion de cette journée. Une femme a dit, moi, tout ce qui m'a touchée, c'est de voir pour la première fois dans l'histoire de Kasongolunda les hommes assis en train d'écouter les femmes. Ça, c'était lors de l'évaluation de la journée. Et je me suis dit que quelque chose était fait et c'était parti. Aujourd'hui, les femmes fêtent, que moi je sois là. D'ailleurs, maintenant, là, je suis à Kinshasa, je viens de Kaemba. Moi, j'ai fait une tournée, mais les femmes ont organisé. Il y a des réflexions, il y a des conférences, débats. Il y a des programmes qui se font où les femmes qui sont au niveau de la cité, aujourd'hui, c'est une ville, sortent pour aller sensibiliser les autres femmes dans d'autres agglomérations. Donc c'est...
Mais comment les hommes prennent ça, de Kasubulunda? Comment ils voient ça? Ils vont passer d'un mauvais œil.
Bon, aujourd'hui, je sais que j'étais taxée de beaucoup de mots quand je commençais à me dire que j'ai révolté les femmes parce qu'on parlait genre, on parlait droit des femmes. Mais aujourd'hui, ils ont compris que ce n'est pas une histoire de Pélagie, c'est une histoire internationale. Bah, je peux vous dire que même l'Église, au début, était contre moi, disant que j'étais là en train de faire des choses qui allaient révolter les femmes. Mais c'est compris. C'est international, c'est pas seulement nous. Au contraire, les gens sont à la page.
Alors aujourd'hui, par exemple, quand on pose une question à une femme de Kasongolunda,
oui.
Je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça, pour savoir ce que la journée représentait pour elle, vous recevez quel genre de réponse?
Je crois qu'il y en a qui ont compris qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il faut que la femme acquiert l'autonomie. Et elle milite, c'est comme ça. Je dis par exemple que moi, je ne suis pas sur place. Ils m'ont appelé, j'ai communiqué les termes, il y en a qui n'en avaient pas. Elles sont célébrées sans moi. Il y en a qui comprennent et il y en a qui se disent qu'il y a encore du chemin à faire.
En parlant du thème, puisque vous l'avez évoqué, autonomisation de la femme et participation politique de la femme congolaise, mm-hmm. à Kasongolunda, est-ce que vous abordez aussi des questions politiques avec les femmes lorsque vous les sensibilisez?
Oui, bien sûr. Parce que nous, ce qu'on fait, il y a le thème international, il y a le thème national, et nous demandons lors des ateliers préparatoires pour demander aux femmes, est-ce qu'il y a un thème particulier à Kasongolunda qu'on peut aussi mettre pendant les activités? Parce que tout le mois, s'il y en a, tant mieux, s'il n'y en a pas, on prend maintenant le thème national, international, on couple, et puis on développe des activités. On peut aller avec le même thème, même à l'arrière-territoire. Par rapport à l'autonomisation, aujourd'hui, nous en parlons. Culturel, je peux dire qu'en 2013, nous avions fait même un atelier d'évaluation de la participation politique de la femme du Kasongolunda. Ça, c'est avec les femmes et les hommes qui sont genrés. Et on s'est rendu compte que le bilan est négatif, très très négatif. Les femmes elles-mêmes ont compris qu'en 2006, sur tous les échelons, le Kasongolunda, c'est un grand territoire. Hier, c'était le deuxième au niveau national après Bafouassende. Maintenant, on parle que c'est troisième après Oshue. On a eu 5 députés au niveau national, aucune femme. 2 sénateurs, aucune femme. 8 députés provinciaux, aucune femme n'a été élue en 2006. Et quand je regarde, en 2011, on a perdu un siège, c'est vrai. Les députés provinciaux ont continué le mandat, et donc il y a 0 femme à ce niveau. Et au niveau national, il n'y a aucune femme même en 2011, et même au niveau des sénats. Donc il n'y a aucune femme de Kasongolunda qui participe à la scène politique.
Comment on explique ça? Parce qu'elles ne veulent pas s'impliquer?
Alors, il y a
un problème d'information.
Pas tellement. Il y a l'information et les femmes en ont, parce que j'ai vu qu'il y en a qui étaient candidates. Bon, je sais qu'en 2006, il y a eu 4 femmes candidates. Et en 2011, il y en avait 15. Les raisons évoquées par les femmes disent peut-être qu'elles n'ont pas eu le temps ou le moyen nécessaire de battre campagne en dehors de là. Parce que Kasongolunda, c'est un grand territoire. C'est pas seulement la cité. On est connu dans la cité, c'est vrai, mais il faut aussi se faire connaître dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs, dans d'autres chefferies. C'était plus la question autour de moyens. Et les partis politiques aussi, on doit se le dire, ne donnent pas de moyens aux candidats. Bon, il y en a qui ont adhéré dans des partis politiques espérant avoir quelque chose pour battre campagne, mais elles n'ont pas pu. Les quelques personnes qui ont été élues, on doit se dire, ce sont les anciens députés. Ce sont d'ailleurs, il n'y a pas eu de nouveaux au niveau national. Les sénateurs continuent, les députés provinciaux continuent. Au niveau national, ce sont des personnes qui étaient déjà donc au Parlement. Et il y a même un qui était aussi une autorité de la province qui sont revenus. Donc, il n'y a pas mal de nouveaux, il n'y a pas eu de nouvelles figures, sauf une seule personne, mais qui avait déjà eu aussi à travailler déjà comme responsable dans la province.
Est-ce que cela ne risque pas de se répéter?
C'est le grand problème, je crois qu'on est en train de voir. Moi, je suis ici parce que j'étais en mission sur l'ensemble du Kwango. Je dois repartir avant peut-être le 31, si Dieu le veut, pour essayer un peu d'évaluer avant de clôturer le mois. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle stratégie mettre en place pour les futurs échelons? Parce que d'ailleurs, le calendrier global met en avant-garde les élections locales. Et nous disons que les élections locales, il faudra que les femmes se retrouvent. Là, nous nous disons obligatoirement. Kasongolunda maintenant a le statut d'une ville. Il y a des communes, il y aura des conseillers communaux, il y aura des bourgmestres, il y aura des conseillers de secteur, de chefferie. Il faudra voir quelle stratégie mettre en place pour que la femme ne soit pas là toujours pour accompagner les hommes.
Sensibiliser aussi les chefs des partis politiques,
oui.
Pour faire participer ou faire élire les femmes.
Les chefs des partis politiques, c'est tout un problème, comme nous le disons. Il y a eu la loi électorale, d'abord la loi sur la mise en œuvre de la parité, qui est en train de souffrir. Et vous savez, je crois que vous avez suivi que même au niveau de la Cour suprême, on dira que le dispositif qu'on a mis dans la loi en parlant du quota énervait la Constitution. Ceci déjà, la loi a été vidée. D'ailleurs, c'est une loi qui est en souffrance. Et quand nous regardons la loi électorale qui a été promulguée au mois de février, vous sentez même qu'elle ne contient rien comme dispositif pour contraindre un peu le parti politique à aligner les femmes. Il n'y a pas de sanction. Ça encore, c'est pour moi une inquiétude majeure. Il y a eu, je me rappelle, dans le discours, quand on clôturait les concertations, on disait que pour les circonscriptions à au moins 3 sièges, un siège serait réservé aux
femmes. Vous avez préparé aux concertations?
Non, mais j'ai suivi les travaux.
D'accord.
Les travaux. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de concret qui accompagne, quelles mesures accompagnent toutes ces dispositions. Donc ça, c'est une inquiétude. Les partis politiques, c'est vrai, mais beaucoup de partis n'ont pas assez de moyens. Surtout les élections locales, avec tout ce qu'il y aura comme candidats, comme nombre de candidats, comme nombre de circonscriptions. Est-ce que les partis politiques ont suffisamment de moyens pour aligner les candidats et surtout accompagner l'électorat faible, les candidatures des femmes? C'est encore un problème. Nous ne savons pas est-ce que la loi sur le financement des partis politiques a été d'application. Point. Prochaine marque.
Oui. On peut parler de mauvaise volonté de la part des hommes?
Je peux le dire encore que le combat pour l'égalité des droits, l'égalité des chances pour la femme, c'est encore du chemin à faire dans notre pays. Il n'y a pas encore cette volonté politique. On peut le dire, moi je peux le dire, l'affirmer tout haut. Ce qui est dit n'est pas appliqué. Je peux prendre le gouvernement de cohésion nationale, il y a combien de femmes? Je ne compte pas les femmes vice-ministres. Si on doit compter des pouvoirs, donc pour les femmes, c'est des postes dont où les femmes sont titulaires. Quand une femme est vice-ministre, ce n'est pas un pouvoir.
Madame Pelagie Makienda, on va parler de cette association que vous dirigez depuis 1999, oui. Cause Rurale. Je l'ai dit, c'est une association sans but lucratif, très active dans le territoire de Kasongo-Lunda et ses environs. D'où vous est venue l'idée de créer cette association?
Bon, Cause Rurale, je peux dire, c'est pour moi, c'est une vocation. C'est comme j'ai dit, quand je rentrais au sein du programme agricole, je me suis dit que le travail de développement n'était limité pas seulement à l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur de développement. Et à Kasongo-Lunda, il y avait un vide, il n'y avait pas d'ONG. Il y avait seulement l'église catholique et protestante qui avait des programmes. Mais une structure laïque qui pouvait accompagner la population sur le plan de développement, il n'y en avait pas. Donc j'ai fait le constat et j'ai associé d'autres personnes. On a réfléchi, j'ai demandé s'il y avait moyen de mettre en place une structure. Les gens étaient d'accord. On avait réfléchi ce qu'il fallait parler cause de la femme rurale, parler cause ou pas. On s'est mis d'accord. Si on met la femme rurale, on va exclure d'autres catégories, les jeunes. Alors, on trouvait un terme qui pouvait prendre tout le monde, la cause rurale. Donc, une cause, c'est l'ensemble des intérêts d'un groupe donné. Mm-hmm. C'est là-dedans qu'on a mis, mais nous avons des programmes à l'intérieur. Il y a un programme femmes et genre qui fait vraiment la promotion des droits de la femme de manière spécifique. Il y a aussi un programme d'appui à la démocratie, droits humains, bonne gouvernance. Là, c'est l'éducation civique et électorale, la promotion de la démocratie. On parle de bonne gouvernance avec des sessions de formation, des campagnes de sensibilisation et d'autres programmes qui sont la sécurité alimentaire et dynamique communautaire. Là, c'est juste pour accompagner la population à la base. Donc, les associations accompagnent, comme on dit, la dynamique communautaire et à travers même des projets que nous exécutons en partenariat avec ceux qui nous sollicitent ou ceux que nous-mêmes nous sollicitons.
Alors, si je comprends bien, cette association regroupe des hommes, des femmes et des jeunes.
Oui.
Et c'est quoi l'objectif poursuivi par cette ONG?
Bon, nous avons l'objectif global, mais je vais résumer peut-être en donnant notre leitmotiv. Mm-hmm. C'est dans une phrase, nous disons, c'est la réduction des écarts entre ville et campagne. Donc, c'est ça notre combat.
Réduction des écarts entre ville et campagne.
Voilà, nous militons plus sur ça.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Réduire les écarts. J'aimerais que les femmes qui sont au village aussi, un jour, soient comme vous qui êtes en ville. Surtout le plan. C'est qu'on vit en ville, si on peut le vivre au village, je crois qu'il y aura d'abord, il n'y aura pas d'exode rural, il n'y aura pas de plaintes. Si je peux accéder à l'Internet...
Mais qu'est-ce qu'on vit en ville? C'est ça que je veux savoir.
Il y a beaucoup de choses, on vit en ville. Ici, il y a la technologie, il y a l'information. Tout à l'heure, je vous avais parlé, le 8 mars, les gens, depuis 1975, mais les femmes de Kasongo-Lunda étaient au courant seulement en 2001. Comptez combien d'années après? Cet écart-là, en termes d'information, nous voulons qu'aussi les femmes accèdent à l'information, qu'elles accèdent à la technologie, qu'elles accèdent aux revenus, qu'elles accèdent à tout ce que nous voyons de bon en ville. Et s'il y a de beaux immeubles ici, qu'on les voie aussi au village. S'il y a de belles écoles ici, qu'on les trouve aussi au village. Les soins de santé, s'il y a de beaux hôpitaux ici, qu'à la campagne aussi, qu'on ait des beaux hôpitaux, des belles routes. Comme ça, nous pouvons être capables, nous aussi, de vendre nos produits, de faire étudier nos enfants dans des bonnes conditions, que les femmes n'accouchent pas à domicile, mais qu'elles accouchent aussi à la maternité, comme en ville. Voilà un peu.
Alors, réduire l'écart, c'est depuis 1999 que Cause Rurale existe. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous avez atteint l'objectif à mi-parcours, ou bien il y a encore beaucoup de choses à faire pour vraiment réduire cet écart-là, pour qu'on sente qu'il y a effectivement réduction de l'écart?
C'est un combat, beaucoup reste à faire. C'est toute une vision, ce que je viens de développer là. C'est toute une vision. Je sais que le résultat, c'est mitigé. Je ne peux pas vous donner le résultat. Le bilan, pour moi, est mitigé. Donc, il y a beaucoup à faire.
Mitigé, ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose de positif quand même.
De positif, d'abord, dans l'éveil des consciences. Ça, je peux dire oui. Et c'est ce que nous avons comme vision. Nous sommes une ONG, nous sommes une ASBL, mais elle doit s'inscrire dans la vision globale du pays, peut-être avec le programme de décentralisation qui a pour objectif de donner l'impulsion de développement à la base. On pourra rencontrer aussi notre objectif.
Alors on va souffler un peu, Madame Pélagie Makedika. Comment vous passez vos moments de détente? Comment vous vous détendez quand vous n'êtes pas pris dans vos papiers, dans vos associations, dans vos réunions?
C'est difficile. On dirait que j'ai moins de détente dans ma vie. Hein. Je me détends moins.
Mais c'est pas bon.
Oui,
pour la santé.
C'est pas bon pour la santé. Moi, je joue un peu, je marche, je peux faire un peu de marche. Et comme j'ai beaucoup d'émissions à l'intérieur, j'adore la marche. Puis dans la nature, là, c'est bon.
Quand vous marchez, vous méditez un peu?
Oui, on médite, on voit, mais c'est pas vraiment une détente comme telle, parce qu'on rencontre encore des problèmes qui vous poussent à réfléchir. On a des difficultés, on se dit ici, il faut des solutions, qu'est-ce qu'il faut? C'est pas facile de travailler pour les communautés vraiment démunies. C'est pas très facile.
Alors, nous, on va essayer de vous détendre un peu dans cette émission.
C'est bon.
Avec un peu de musique.
C'est bien, merci d'avance.
Ça vous arrive d'écouter un peu de la musique?
Oui, mais quelle musique?
Ouais, quelle musique?
J'aime bien le cassette d'Alé Moloto, paix à son âme. Mm-hmm. Oui, dans la musique chrétienne, c'est plus ça que j'aime écouter.
Le folklore de chez vous n'aimez pas?
Oui, j'écoute. Il y en a, il y a Kaska Songo qui chante, il y a Pierre Bandana, je connais. Si vous en avez, tant mieux.
Ok, on va essayer de trouver.
De trouver folklore yaka.
Oui, un folklore yaka, pour votre plaisir.
C'est bon.
Une façon pour nous de vous souhaiter bonne fête de la femme, même si vous ne voulez pas qu'on parle de fête.
Je ne partage pas un peu cet avis, parce que qu'est-ce que les femmes fêtent le 8 mars, en fait? Nous fêtons quoi le 8 mars? Moi-même, j'ai réfléchi à tout ça pour dire, le 8 mars, c'est célébré d'abord sous quel signe? C'est le signe de l'évaluation. Beijing plus 20. Quelles sont les avancées? On est en train de faire un bilan, en fait. Alors, d'abord, quand vous regardez le 8 mars, ça s'inscrit dans le cadre d'un combat, n'est-ce pas? Nous militons pour les droits des femmes. Par rapport à cela, nous sommes en train de voir toutes les revendications qu'on a eues pour les combats des femmes, pour l'égalité des droits des femmes. Quand les femmes fêtent le 8 mars, c'est une manière de se poser la question par rapport à leurs conditions. Est-ce que quelqu'un qui revendique, quelqu'un qui se plaint qu'elle est victime de violence, quelqu'un qui se plaint que ses enfants n'étudient pas bien, quelqu'un qui se plaint sur les inégalités, est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de fêter? Ça, c'est ma réflexion à moi.
Et pour vous, vous pensez que ça doit être une journée de réflexion?
De réflexion, parce que nous sommes en train de militer, même le gouvernement. Nous savons qu'à Beijing, il y a eu 189 pays. Il y a eu la déclaration, le programme d'action de Beijing. C'est ça maintenant qui est même en train d'être évalué au niveau des Nations Unies avec la 59e session sur la condition de la femme. Et je ne sais même pas notre pays quel est le bilan de la RDC aujourd'hui. Je viens de parler même des nominations. Il y a combien de femmes au Parlement? Combien de femmes dans les structures de prise de décision? Est-ce que pour ça, on doit dire qu'on a une fête? Moi, je pense qu'on a détourné même l'objectif de 8 mars. Et c'est ça qui est la base de beaucoup de dérapages. La quintessence a été vidée. Les hommes aussi en profitent pour dire que le 8 mars est réduit au port des pannes. Et si vous regardez, il y a des femmes même qui reçoivent des coups le jour du 8 mars. Peut-être qu'elle a réclamé un panne qu'elle n'a pas reçu. Et la femme, le mari même fait une violence sur elle parce qu'elle n'a pas été capable de lui acheter un panne. Et je crois aussi qu'il y a des filles qui ramassent des grossesses le 8 mars. Parce qu'ils vont aller chercher des pannes que le papa n'a pas pu acheter vers son petit copain et on en profite. Voilà, pour abuser. Je pense que ce n'est pas tout à fait une fête. Les femmes, nous devons réfléchir sur le sens que nous, en RDC, nous donnons à la journée du 8 mars.
Madame Pélagie Makedika, on va souffler un peu avec ce folklore yaka. Okay. Pour votre plaisir et pour le plaisir de toutes les femmes de Kasongo-Lunda qui nous suivent en ce moment. Et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Restaurant Mama Télé La Poire.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Pélagie Makédika, présidente de Cause Rurale, une association sans but lucratif très active dans le territoire de Kasongo-Lunda et ses environs, militante de droits des femmes et celle que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. On parlait de Cause Rurale, cette association que vous dirigez depuis 1999. L'association compte combien de femmes?
Dans quel sens? Au niveau de la direction ou au niveau des membres?
Au niveau des membres.
Bon, les membres, on a 115 membres effectifs, je crois que c'est 45 femmes.
Toutes, ce sont des femmes ménagères, j'imagine?
Non, non, il y a aussi des femmes qui ne sont pas ménagères, il y en a qui travaillent.
Alors, cause rurale, l'appellation cause rurale, c'est parce que c'est dans un milieu rural?
Comme je dis, c'est une vision. Nous, on a voulu vraiment focaliser notre lutte, notre combat, notre travail sur le milieu rural et paysan. Donc d'ailleurs notre devise c'est le paysan d'abord, le paysan ensuite, le paysan toujours. Donc c'est une vision de développement. On travaille pour les populations rurales et périurbaines. Donc,
quels sont les problèmes que ces personnes ou ces paysans connaissent, que vous cherchez à résoudre?
Aujourd'hui, si je dois parler d'un grand problème dans le territoire du Kasongo, c'est la question des routes. C'est ardu. Je viens de faire pratiquement 4 missions au mois de mai. J'ai fait la ronde du Kwango, pas seulement des Kasongo-Lunda. Au mois de septembre, j'étais là en octobre, en décembre, et tout récemment, j'en viens, j'arrivais ici samedi. Le problème de route, c'est vraiment le goulet d'étranglement dans Kasongo-Lunda. Pour vous comprendre, sur un tronçon de 35 km, qu'on fasse toute une journée pour franchir 35
km. J'ai les images. 35
km seulement.
Vous passez toute la journée.
Toute la journée. On ne sait pas avancer. On ne sait pas avancer. Et je me dis même que c'est un miracle quand on passe. Parce que de part et d'autre, il y a des érosions. Vous ne savez pas si le chauffeur, c'est stressant comme tout. Il y a des projets dans ce pays. Il y a des gouvernements. Il y a même l'office de route. Je me demande. Je prends ici Bukangalonzo pour atteindre Kasongo-Lunda parce qu'il faut prendre la nationale numéro 1. Vous prenez à droite, vous dépassez le territoire des Popo pour arriver à Kasongo-Lunda. Il y a des projets même que nous voyons qui ont commencé mais qui n'ont pas abouti. Donc le problème majeur, c'est le route. Si on arrivait à améliorer le route, je crois que c'est un grand facteur de développement parce qu'il y a même des motivations de la population. Jadis, Kasongo-Lunda était le grenier du Kwango. Le Kwango, c'est une province aujourd'hui, mais tout le monde sait que ce territoire était le grenier du Kwango. Aujourd'hui, ce qui a été grenier connaît des problèmes de malnutrition. C'est pour dire qu'il y a un problème sérieux. En 2011-2012, Kasongo-Lunda avait le taux de MAG, donc le taux de malnutrition aigu le plus sévère du pays. On a essayé de réfléchir, nous avons fait le SOS au niveau humanitaire, il y a eu des interventions des ONG internationales, nous-mêmes aussi on était dans un programme de sécurité alimentaire pour appuyer les ménages frappés par la malnutrition. Mais je me dis qu'il y a des facteurs qui sont la base de cela. C'est-à-dire quoi? Jadis les femmes, les ménages, les gens travaillent ardument parce qu'ils étaient sûrs qu'ils pouvaient aussi évacuer pour faire face à d'autres besoins. Quand quelqu'un produit 20 sacs d'arachide de manioc qu'il n'a pas évacué cette saison, demain, il sera démotivé à travailler encore dur parce que c'est que c'est pour rien qu'il fournit des efforts.
Il s'est pas évacué.
Voilà, justement, produits. Voilà, ces produits. Et c'était un grand problème. Je pense que c'est là. Je peux résumer parce que la question de route, c'est un facteur qui entraîne d'autres problèmes.
Et donc aujourd'hui, si on arrangeait un peu les routes à Kasongo-Lunda, ça va beaucoup aider cette population-là.
Oui, bien sûr.
À pouvoir s'ouvrir, à pouvoir évacuer la marchandise, à pouvoir faire des échanges avec
d'autres. Avec toi, c'est même sortir sur Kinshasa, sortir sur Kenge, sur d'autres villes, sur Kikwit, parce que Kasongo-Lunda partage plus ou moins 600 km avec l'Angola. La frontière est naturelle avec la rivière Kwango. C'est Kasongo-Lunda qui abrite la cité de Tembo. Tembo, c'est une voie d'entrée et sortie vers l'Angola. Et si je vous dis que pour atteindre Tembo, il y a des commerçants dont la marchandise fait 2 à 3 mois pour arriver à Tembo. Allez-y comprendre que nos produits, le sac de ciment de Kinshasa coûte plus ou moins $75 à Tembo. c'est dans le même pays. Alors qu'à l'époque, il y avait des routes, un morceau de savon, je ne sais même pas, et ça coûte combien, le sucre, il y a des choses qu'on ne sait plus trouver au village. La bière ici qu'on appelle, bon, je n'aime pas trop l'appellation, petite à quartier, à Thème, on ne la connaît même pas, parce qu'on ne sait pas l'amener. Donc c'est pour dire qu'il y a des problèmes. Si vraiment on a rangé le route, pour moi, je pense que ce monde-là sera ouvert à d'autres milieux. Et ça va enclencher quand même, continuer un peu l'élan de développement qu'on a connu dans ces milieux. Nous, quand on est à Grané, on avait des petites voitures. Les VW, on a vu à Kassongoluna. Aujourd'hui, même les Jeep 4x4 souffrent.
Pour arriver à Kassongoluna.
Oui.
Alors, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est l'appellation d'une bière, petite à quartier. Vous n'aimez pas trop l'appellation.
Non.
Pourquoi? Ça réduit la femme.
La femme, oui. D'une petite à quartier. Vous voyez tout ce que c'est là, tout ce qui entoure cette petite bière-là. Et c'est elle qui cartonne. Quelle image qu'on donne à la fille quand on dit petite à quartier.
Et on voit aussi dans nos publicités, la plupart de nos publicités,
oui,
ce sont
oui,
les femmes qui sont exposées.
Exposées. Et la femme, c'est un objet. Voilà.
Est-ce que vous sensibilisez aussi sur ça? Sur ces
oui,
genres de questions?
Moi, j'ai dit, oui, il y a des questions. Je dis, quand on appelle, comme ça, vous êtes d'accord, vous acceptez? Bon, il y a des sociétés de consommation, il y a des multinationales, il y a des gens qui sont derrière la publicité, il faut qu'ils fassent l'argent, mais il y a des femmes aussi qui ne font pas trop cas de ce qui s'est dit sur elles. Donc, il y a un grand travail à faire, comme je le disais déjà, même des défis par rapport au masque, comme c'est tout un mois, il y a des campagnes de sensibilisation, investir les églises, investir les milieux où la femme est présente pour vraiment lui expliquer sa condition, pour qu'elle prenne conscience de son statut et tout ça.
Et qu'est-ce que Cause Rurale a organisé cette année pour ce mois de mars?
Pour le mois de mars, il y a déjà un programme, je crois que nous, ce qui est dit à Mme Willy qui est sur place, parce que moi je suis ici avec les autres membres, on va sortir d'abord dans des villages, donc des agglomérations, parler, sensibiliser les femmes et clôturer au niveau de la cité.
Sensibiliser sur quoi? Sur la
le
journée,
thème, sur le thème, oui, surtout maintenant que c'est en lien avec la participation politique, nous on explique c'est quoi d'abord la participation politique et sur quoi un parti politique. Parce que très souvent si les gens ne savent pas, ils vont, on va, on leur donne des t-shirts, beaucoup de femmes sont recrutées la veille, ce n'est pas avant. Et quand les états-majors se constituent au niveau même local, en forme de... Il y a des femmes qui gèrent seulement les ligues des femmes au sein des partis. Donc on ne voit pas une femme qui gère un parti au niveau local. Quand on nomme les présidents fédéraux et tous les reste, je ne vois pas une femme qui est présidente fédérale d'un parti politique au niveau local. Moi, je sillonne tout le Kwangu. Quand on dit femme, donc juste femme présidente de la ligue des femmes à l'intérieur du parti. C'est comme si tout ce qui est féminin doit être géré par les femmes seulement, et les femmes ne peuvent pas gérer les questions de la cité de manière globale. Donc c'est à ça qu'on doit leur dire que vous n'êtes pas là seulement pour étaler des pannes pour les présidents des partis, ou pour préparer, parce que quand cela arrive, ce sont les femmes qui sont à la cuisine. Elles ne font que ça. Là où les choses du parti se décident, se discutent, les femmes ne sont pas là. Donc nous, maintenant, on est en train de sensibiliser pour dire que ne soyez pas seulement à la cuisine, vous n'êtes pas là pour faire seulement le protocole, mais vous êtes là aussi pour donner vos avis, vous impliquer. Parce que les hommes, c'est non, ces femmes-là, mais qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles disent, ainsi de suite. Mais il faut leur dire, c'est que c'est tout un travail, toute une éducation. Il y a des choses que les femmes, qu'est-ce que je peux dire? Il y en a, c'est vrai, qui ont le courage, mais il y en a, elles ont des idées, mais il faut les pousser à sortir les idées qu'elles ont. Donc c'est un peu ça, le travail.
Madame Pelachi, Makedika, vous avez des ambitions politiques, vous?
J'aimerais d'abord faire ce travail de la base. C'est plus salutaire pour moi. Il y a encore du chemin à faire.
Ça va booster les autres femmes. Ça va peut-être aider les autres femmes. Comme vous êtes leader d'opinion là-bas à Kassongoluna, vous sensibilisez les femmes, vous-même vous montrez, vous prêchez par l'exemple.
Bon, on va voir. Il y a encore du temps. Il y a l'année 2015 qui est là. Il y a d'abord les élections locales. On va voir en 2016 si on peut. Je ne dis rien. Je ne dis rien.
Vous réfléchissez pas... encore.
C'est avoir, mais il y a encore du travail à faire. Est-ce que les femmes ont déjà compris? Il faut que les femmes comprennent.
Mais vous avez déjà compris.
Moi, j'ai déjà compris, je suis un individu. Hein? Et je vais encore me percher là. Il y a encore un vide qui se crée, alors c'est un peu ça.
Vous perchez, mais n'oubliez pas la base.
Je ne vais pas oublier la base, mais je crois qu'il y a encore du travail à faire d'ici 2016. Nous avons encore 2 ans, on est au début de 2015.
2016, c'est demain, c'est pas loin.
Je veux bien, mais il y a d'abord les élections locales. Il faut préparer les femmes d'abord à ça. Mm-hmm. Les élections locales, les provinciales, et puis on verra.
C'est pas loin, c'est dans quelques mois.
Dans quelques mois, c'est en octobre avec le calendrier global.
Oui.
Si on respecte le calendrier,
oui.
Évidemment.
Est-ce qu'on avait déjà commencé?
Non.
Le programme sur ça? Non,
le
pas encore.
Sur les calamités?
Sur les élections locales.
Les élections locales, bon, nous, on a déjà un programme, on va organiser des matinées électorales. Donc, c'est dans le programme, dans notre plan d'action déjà de cette année. Et sûrement après, dans le 8 mars, on a des thèmes en dehors de l'autonomie. D'abord, ça parle politique, donc c'est une manière aussi d'expliquer le calendrier global. Et on a aussi d'autres questions qu'on va essayer d'aborder liées aux migrations, parce que nous travaillons sur la question des expulsés d'Angola sur la bande frontalière, et voir aussi les différentes violences basées sur le genre et les violences subies par les femmes lors des migrations. Donc, ce sont nos thématiques pour ce mois de mars.
Alors, c'était un plaisir de vous recevoir.
Oui.
Dans cette émission, on va devoir conclure. Madame Pelagi Makiedika, est-ce que vous avez un mot peut-être à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment, toutes ces femmes qui vivent dans des milieux ruraux, qui n'ont pas accès à l'information, un message en ce mois de mars qui leur est dédié?
Bon, un message à toutes les femmes de la RDC, c'est d'abord un message d'encouragement, et que le combat n'est pas encore fini.
Allez-y.
Mm-hmm. Je dis que bon, le combat continue, c'est une lutte, qu'on ne croise pas les bras, qu'on ne croise pas les mains, qu'on continue à travailler. Mais c'est un appel particulier aux femmes du Kwango. Je crois que nous devons nous réveiller, nos femmes du Kwango, pour voir que cette province qui est en train de venir, quelle est la place de la femme au niveau du Kwango comme province. Et à Kasongo-Olunda, c'est comme territoire où je suis née, où j'évolue, c'est de continuer cette réflexion qu'on a menée en 2013. Quelle stratégie mettre en place aujourd'hui pour que demain, nous ne soyons pas là pour toujours pour nous plaindre et accompagner toujours les hommes. Voilà.
Madame Pelagi, je vous remercie. Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Madame Pelagi Makiedika. Elle est présidente de Cause Rurale, une association sans but lucratif active dans le territoire de Kasongo-Olunda et ses environs. Elle est également militante de droits de la femme. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la prise de son, au micro Kéline Couté. Vous pouvez réécouter cette émission vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.